Deux invités et du goût, à commencer par le goût des mots avec Pierre Gagnère, chef très étoilé pour qui la cuisine commence avec une gomme, un papier et un crayon. Et Ryoko Sekiguchi, poétesse, écrivaine, traductrice qui sait aussi manger les nuages et nourrir les fantômes.
Poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Ryoko Sekiguchi, Pierre Gagnère, bonjour, bienvenue à tous les deux. L'une écrivaine et traductrice, l'autre cuisinier ou compositeur. Pierre Gagnère, chef triplement étoilé du restaurant du même nom à Paris, rue de Balzac, quelques satellites à Londres, Courchevel, Bordeaux, Dubaï et je ne les cite pas tous. Déjà 50 ans de cuisine. Un sacre en 2015 par vos pairs, celui de meilleur cuisinier du monde. 50 ans de cuisine et des dizaines de publications, dont quelques-unes aux éditions Argol, qui ont le bon goût de marcher sur deux jambes, l'une côté poésie, l'autre côté gastronomie. Vous y avez déjà publié trois objets, dont Un principe d'émotion, ça c'était en 2011, et puis plus fraîchement Transgression, un recueil d'entretiens avec l'éditrice Catherine Floïc. Et comme ça tombe bien, Ryoko Sekiguchi, vous y avez vous-même signé trois petits essais, l'important sur l'astringent, l'autre titré Manger fantôme, et enfin Fade. Petit éloge du sans-saveur, ou une enquête délicate sur une notion gustative et culturelle, hein, qui en dit au moins autant sur le Japon et la France que sur notre appréhension de l'inconnu. Rien d'étonnant alors à ce que vous affrontiez aux éditions Piquier avec Patrick Honoré la retraduction du texte fameux de Tanizaki, Louange de l'ombre, paru en 1933. Ce court texte en forme de théorie, hein, au sens de collection, et manifeste de la culture japonaise du clair-obscur écrasé par la lumière rationaliste de l'Occident.
難しいようだけれども白身のところは硬くて針が入らないが黒目はやわらかい。2、3度突くとうまい具合にズブと鈍ほど入ったと思ったらたちまち眼球が一面に白濁し視力が失せていくのが分かった。出血も発熱もなかった。
La voix de Tanizaki, lisant non pas Éloge de l'ombre, mais Shunkin, esquisse d'un portrait, un texte lui aussi de 1933. Et alors, à vous voir, Ryoko Sekiguchi, de dire des choses tout à fait incroyables, parce que vous avez l'air soit très inquiète, soit très intéressé par ce qu'il était en train de dire.
Non, parce que c'était le passage, enfin un des passages le plus, disons, violent. Il essaie de décrire comment on peut rendre quelqu'un, enfin donner la cécité. Et donc, il essaie de percer avec l'aiguille.
Qu'est-ce que vous entendez, Ryoko Sekiguchi, dans cette voix-là, alors qu'on n'entendait pas très bien, mais qu'on entend malgré tout, dans cette voix-là, dans cette langue-là, vous qui êtes si sensible aux voix enregistrées et aux voix fantômes?
Alors, c'est étonnant, parce que justement, c'était ce contraste avec le contenu de ce qu'il lit et la façon dont il lit, qui est, en fait, c'est comme si il lit comme si il lisait un document administratif, un des passages le plus violent, mais en même temps, la description de comment rendre quelqu'un aveugle. Et comme si d'écrire une recette de comment faire un plat, parce que il dit que c'est plus difficile de percer par le côté blanc, mais que par le côté noir. Donc il faut bien viser et ensuite, voilà, on va plus sentir la douleur qui est.
C'est assez japonais, non ça?
Pardon?
C'est assez japonais.
Oui, c'est assez japonais, ouais. Ça c'est vrai. Ouais.
Et les questions de noir et blanc.
Mon partenaire japonais que j'avais il y a quelques années me disait, je ris à l'extérieur, je pleure à l'intérieur. Voilà.
Ce contraste de clair-obscur. Ouais.
Parce que vous pleurez à l'extérieur, Pierre Gagnère?
Ah non, moi je crois que je suis quelqu'un malheureusement de très prévisible dans ma façon de fonctionner. Mes émotions, je... j'hésite pas à les extérioriser.
Un retour au noir et blanc, ou à la pénombre, en tout cas louange de l'ombre. Il est question sous la plume de Tanizaki du sentiment du monde japonais, des pouvoirs de la pénombre, du rayonnement de la couleur du noir, hein, se débattant avec la blancheur translucide, évidente et banale hein, du monde occidental. À la façon d'un inventaire délicat, Tanizaki énumère et médite sur les lieux d'aisance notamment, les mérites du pinceau et du stylographe, l'architecture intérieure, le confort occidental, sa difficile et parfois drôlatique, parce que le texte est assez drôle malgré tout, drôlatique intégration à l'habitat japonais, les luminaires forcément, le corps des femmes, les récipients en lac, le théâtre kabuki contre la pénombre qui habille le no, et finalement sur ce que nous perdons à emprunter à d'autres, sur ce que nous perdons et qu'il nous faut porter sur notre dos, sur le secret du clair-obscur et finalement sur la littérature. Peut-être une petite explication pour commencer à propos de cette transgression, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Pierre Gagnaire, ou interpellation du lecteur avec ce petit changement de mot, mais qui a son importance, tant on l'a dans l'oreille, ce passage de l'éloge de l'ombre, dans la traduction de 77, hein, celle de René Siffert, qu'on connaît, à louange de l'ombre.
Alors la raison, c'est très banal et enfin même prosaïque, parce que moi personnellement j'aime bien, enfin j'aime le titre L'éloge de l'ombre, pourquoi pas. Et, mais vous savez qu'en fait toutes les traductions ont des droits, y compris les titres. Donc ce titre appartient au traducteur de la première version.
Ça, alors.
Bien sûr, parfois, on peut prendre, bon, bien sûr, aussi, enfin, le titre porte simplement, je sais pas, le nom propre, on ne peut rien changer. Mais, bon, s'il y a la possibilité de changement, on essaye de ne pas prendre le titre qui a été déjà proposé. Voilà.
Vous parlez dans votre préface, Ryoko Sekiguchi, d'une sorte de, disons, d'invariant quant à ce texte, hein, qu'on a tenu comme, je vous cite, un chef-d'œuvre absolu en ce qu'il dévoilerait au monde les fondements de l'esthétique japonaise authentique sous l'angle du clair-obscur. Et vous avez tendance plutôt à réviser un petit peu cette vision, même si elle est un peu vraie, mais pas seulement. Diriez-vous qu'il y a eu comme un malentendu par rapport à ce texte, ou que c'est le lecteur qui a changé, ou peut-être que c'est l'ombre hein, qui aurait changé de camp ?
Tous ces éléments qui ont changé au cours de ces 40 ans de lecture en France. C'est-à-dire, d'abord, la lumière au Japon, qui à l'époque, dans les années 70, était encore, même à Tokyo, et était encore plus sombre que celle d'aujourd'hui. Maintenant, je pense que Pierre Gagnaire, vous connaissez bien à Tokyo, même le soir, enfin, la lumière n'a presque rien de poétique à Tokyo, peut-être dans une autre ville, justement à Kyoto, la lumière elle est beaucoup plus tamisée, on voit plus l'espace comme une sorte de masse par la présence de l'ombre. Donc voilà, donc déjà la lumière a changé au Japon, et ensuite je pense que la lecture a changé en France, parce que à l'époque où donc L'éloge de l'ombre a été traduit et publié. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui ont été traduits. Enfin, de la littérature japonaise, on connaissait Kawabata, Mishima et Tanizaki. C'était à peu près tout. Lorsque c'est comme ça, on ne peut pas d'emblée présenter un auteur, disons, excentrique. Il faut d'abord montrer que cette littérature vaut la peine d'une lecture et que c'est sublime. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que le traducteur, à l'époque, a essayé de donner une image de Tanizaki comme un chef-d'œuvre, une esthétique asiatique très lisse, très propre. Et je pense que cette voix-là de Tanizaki de l'époque ressemble beaucoup à la voix des autres auteurs, donc Mishima ou bien de Kawabata. Maintenant, on peut les diversifier, de donner à chacun la voix propre.
Et donc, votre traduction à vous, enfin votre co-traduction, serait venue corriger tout ça et aurait transmis autre chose.
Il n'y a pas du tout d'idée de corriger ou bien de rendre la traduction meilleure. C'est juste que je pense que, comme vous avez dit, Tanizaki a un côté très drôle. Dans ce texte, sa voix est beaucoup plus proche de nous. que ce qui a été traduit il y a 40 ans. Et ce n'est pas un grand auteur qui vous apprend ce que c'est que la civilisation japonaise et l'esthétique japonaise, mais plutôt, il veut parler de ses travaux ratés, de sa maison, des toilettes, mais vraiment, il utilise le mot toilette et non pas l'aisance. Et vraiment, c'est, en fait, il se montre très sympathique, très, et en même temps, il y a maintenant quelques chercheurs qui, en parlant de ce texte, dit que c'était peut-être écrit en but d'en faire la parodie de théorie littéraire de l'époque. En fait, sous cet angle-là, on peut tout à fait lire autrement ce texte. Et donc, on peut dire qu'il critique les critiques littéraires de l'époque en en faisant un peu trop, vous voyez.
Il y a beaucoup d'ironie.
Oui. Voilà. Donc,
mais là, pour le coup, on se serait vraiment complètement trompé, alors. Sur la lecture de ce livre.
En tout cas, je pense qu'il y a plusieurs lectures possibles et c'était cela qu'on voulait donner cette fois-ci.
Si on pouvait résumer le livre en une phrase, concluez-vous, Ryoko Sekiguchi, ce serait peut-être celle-ci. Dis-moi quelle lumière tu connais et je te dirai qui tu es. Comment est-ce que vous répondriez à cette question?
Alors, moi, j'ai tendance, c'est vrai, à être très sensible à la nature de lumière. Et justement, moi, j'aime beaucoup, vous savez, Pierre Gagnère, la lumière, la nature de lumière de votre restaurant. Parce qu'il y a toujours... En entrant, on sait, peut-être vous pouvez changer le décor, les meubles, mais il y a toujours cette lumière qui est un peu tamisée, qui est chaleureuse, presque caramélisée, je dirais, et qu'on sent que quand on y mangera bien, qu'on sera bien accueilli, et qu'il y aura cette cuisine qui nous attend, et en même temps, ce n'est pas toujours identique, parce que c'est tout de suite toujours reconnaissable, mais j'essaie d'aller dans votre restaurant avec toujours la même copine, mais souvent en hiver. L'année dernière, je suis allée pour la première fois au début d'été chez vous, et la lumière était toujours pareille, mais un peu différent, un peu, parce que, avec un peu de fraîcheur, parce que c'est la saison.
Oui, puis il y a de la lumière naturelle qui rentre. Moi, je suis très sensible. Mais ça me touche, Cody, parce que moi, je suis très sensible à la lumière, effectivement. Et je trouve que ça fait partie du confort de vie, la lumière. La lumière, là, par exemple, je suis certain
c'est
que...
C'est terrible, Là où nous sommes.
Là, on est aidé parce que vous dégagez, mesdames, dégagez de la douceur, de la précision, de l'intimité, mais c'est vrai que la lumière, elle est là, ça. Et moi, effectivement, le mot caramel, le mot doré, enfin moi c'est beau. Je dis, je veux une lumière blonde. Je leur dis toujours lumière blonde. Et je me bats pour effectivement. Et là, j'ai investi beaucoup d'argent effectivement il y a 3 ans parce que je trouvais qu'on était pour aller encore plus loin. Pour que cette lumière soit. J'aime bien la lumière sculptée. Et alors, effectivement, le restaurant, comme il y a ces grandes baies vitrées, il y a trois grandes baies vitrées, la lumière rentre jamais directement, elle rentre toujours en biseau, elle est toujours par-dessous, par haut, mais jamais directement. Et effectivement, la lumière,
elle glisse comme ça.
Et je voudrais dire un mot, il y a un livre qui m'avait beaucoup impressionné, c'est un livre de Mikuni. Mikuni avait fait un livre il y a une trentaine d'années, et c'était extraordinaire. C'était le photographe avait fait les photos toujours de la même façon, de la même assiette, et tout se jouait sur un léger décalage de lumière. Ah. Et il y avait 50 photos de plat, toujours la même, pratiquement presque toujours la même assiette, mais la façon dont c'était éclairé, mais une subtilité. Et ce livre m'avait fasciné parce qu'il représentait pour moi cette parfaite idée que j'ai justement du Japon, où tout est d'une subtilité comme le bouillon, quoi.
Il y a quelques pages d'ailleurs de Tanizaki sur cette question de la lumière et de ce qu'on mange, notamment avec les récipients en lac. Alors, c'est pas de ça dont on va parler, mais dans Louange de l'ombre, Tanizaki livre même une recette de sushi en feuilles de kaki. Je crois que vous l'avez essayé, dont il dit ceci: le gras et le salé du saumon imprègnent le riz de façon équilibrée. Le saumon est doux comme s'il était frais. C'est au-delà des mots. Et puis, un petit peu plus loin, page 49, il est question de pâtes de fruits. Est-ce que vous voulez bien nous faire lecture, Ryoko Sekiguchi ?
Bien sûr, avec plaisir. Natsume Soseki, dans Oreiller d'herbe, fait l'éloge de la couleur d'une pâte de fruits yokan, couleur méditative sillonnée. Sa surface translucide est nuageuse comme du jade qui boit la lumière du soleil jusque dans ses profondeurs, semble dégager en même temps une lueur rêveuse. Jamais vous ne trouverez une telle complexité ni une telle profondeur de couleur dans une pâtisserie occidentale. Quelle superficialité, quelle banalité dans les crèmes en comparaison. Et la couleur de peau du yokan devient plus méditative encore quand celui-ci est dressé dans un plat couvert en lac dans la pénombre de laquelle il se distinguera à peine. Lorsqu'on porte en bouche cette chose fraîche et lisse, c'est comme si la pénombre de la pièce entière se transformait en une masse de douceur fondant sous la langue, et quand bien même le yokan ne serait pas si bon que cela, sa saveur touche à une sensation de profondeur presque extraordinaire. Sans doute, tous les pays du monde travaillent-ils les couleurs de leur préparation culinaire de façon à les harmoniser aux teintes de l'environnement et des couverts. Pour ce qui est de la cuisine japonaise, en tout cas, l'appétit vous quittera à moitié si elle vous est servie dans une assiette blanche sur une lumière crue. Prenez la soupe de miso rouge que vous consommez tous les matins. Il suffit de considérer sa couleur pour comprendre qu'elle fut élaborée jadis dans des maisons de pénombre. J'étais un jour invité à une cérémonie du thé où me fut servie une soupe de miso. Eh bien, ce liquide couleur de terre rouge, presque boue, que je buvais quotidiennement sans penser à rien, prit alors sous la lumière instable de la bougie, stagnant dans son bol de lac noir, une nuance d'une profondeur véritablement engageante. De même, pour la sauce de soja, dans la région de l'Ouest, pour les sashimi comme pour les légumes en saumure ou poché, ils usent d'un tamari très prononcé. Mais quelle richesse de clair-obscur dans ce liquide luisant et onctueux, quelle harmonie d'ambre. Et les aliments blancs, miso blanc, tofu, pâté de poisson, purée d'igname, sashimi de poisson à chair blanche, ce n'est pas en les éclairant de toutes parts que leur couleur sera le mieux mise en valeur. À consommer par le riz cuit, c'est dans un bol à riz, meshibitsu, on boit la quai noire et lustrée, placée dans un endroit sombre, qu'il apparaîtra plus beau, qu'il titillera le plus l'appétit. Du riz bien blond, cuit de frais, s'élevant au centre de la boîte noire, la chaude vapeur qui monte quand vous ouvrez prestement le couvercle, chaque grain luisant comme une perle. Devant cette vision, tout japonais ressent en lui le précieux bienfait d'un repas de riz. À une telle évocation, vous savez que notre cuisine a toujours reposé sur le clair-obscur, a toujours été indéfectiblement liée à l'ombre.
Merci.
C'est superbe.
Pierre Gagnard, je ne sais pas si vous avez lu Louange de l'ombre, mais vous avez lu Oreiller d'herbe de Natsume Soseki, donc qui est cité en début de l'extrait que Ryoko Sekiguchi vient de lire, texte paru il y a presque un siècle maintenant. Qu'est-ce que ce texte a bien pu produire chez vous pour qu'il appelle la création de plats, et pas que d'un seul hein.
C'est le mot oreiller d'herbe qui m'a interpellé. Non, là, je reviens sur le texte que vous avez lu. D'abord, il était très bien lu. Hein. En écoutant ça, ça me rappelle à des moments de table tout à fait incroyables. Il y a une espèce de silence profond qui se produit lorsqu'on mange cette nourriture qui est incomparable. Ce mot oreiller d'herbe, l'oreiller, d'abord, ça vaut quelque chose de très tendre, de très reposant, de voluptueux évidemment, d'accueillant. Une notion presque maternelle. Et puis les herbes, ben, c'est la vivacité, c'est la vie, c'est la verdeur, c'est la fraîcheur, c'est l'époque printanière. Voilà, donc c'est cette contradiction entre la vivacité d'une herbe et puis la tendresse cotonneuse de l'oreiller.
Qu'est-ce que vous en avez fait alors ?
C'est fait à base d'un poisson de lac. Ça peut être qu'un lac, ça peut pas être la mer. Mmh. C'est un lac, donc c'est de l'ombre chevalier, du ferrat, du brochet, donc du lac Clément. Toujours là, j'ai la chance d'avoir travaillé avec un pêcheur qui nous envoie des choses magnifiques. Et puis, il s'est confectionné, tout bêtement, un petit peu avec la forme d'un oreiller. Et c'est enrobé d'une crépine de porc qui est très fine. Et entre cette mousseline très onctueuse et la crépine, il y a un mélange d'herbes, du cerfeuil, de la mélisse, un petit peu de menthe, de l'estragon, en fonction justement des saisons. Et ce mélange d'herbes est cuit sous cette fine feuille de crépine. Et c'est cuit à la vapeur pendant quelques minutes. Et ensuite, c'est terminé dans du beurre frais. Et déglacé en général d'un peu de citron, et en saison, c'est la saison d'un peu de yuzu vert.
Ah. Voilà.
C'est beau et c'est plutôt bon, je pense. Puis après, il y a plein de choses autour, hein, parce qu'après, on va arriver dans la saison des asperges, donc il y a des asperges et du cresson, enfin, il y a toute une histoire qui est racontée autour de ça. Ouais.
Waouh.
C'est
tout un paysage.
Beaucoup de gens pensent que j'étais inspiré par le Japon, mais. Évidemment, quand je vois des choses, ça me touche. Mais moi, la première fois que j'ai mangé japonais, en 84, je crois, j'ai tout de suite reconnu ce que je recherchais dans mon propre travail depuis déjà plus de 15 ans. Quoi.
Qu'est-ce que vous avez reconnu ?
Que la cuisine, c'était autre chose que de la cuisine. Que la cuisine, c'était un prétexte pour, comme la lecture d'un texte, comme un dessin, comme une estampe, comme de la musique, pour créer de l'émotion, créer un état qui vous apporte la sérénité, vous apporte du réconfort, du confort.
Est-ce que c'est, comme vous dites, le prétexte, est-ce que c'est un plat, c'est évocateur d'un sentiment ou bien d'une émotion ? Est-ce que c'est quelque chose qui...
C'est pas évocateur d'un sentiment, c'est créateur de sentiments. Mais ça, je l'ai découvert avec le temps. La nourriture, la façon dont elle est posée, dont elle est disposée, la façon dont elle est servie, sa chaleur, sa texture, ça crée quelque chose qui vous touche dans tout votre être.
Sur cette question, justement, sur cet écart entre évocation et création, Ryoko Sekiguchi, la cuisine que vous pratiquez, vous aussi, assidûment, la cuisine, c'est une affaire de transmission aussi, pour vous. Votre mère, votre grand-mère, celles qui portent leurs plats dans leur corps, dites-vous. Vous cuisinez d'ailleurs avec vos fantômes, hein, parfois pour les fantômes. Pour vous, la cuisine, ça serait donc effectivement davantage évoquer ou en tout cas reproduire des goûts d'enfance de cuisine plutôt que de créer de nouvelles émotions ?
Non, c'est les deux. Parfois, ce que je sens, par exemple, quand je suis dans le restaurant de Pierre Gagnère, parfois... Enfin, il y a des plats qui me font réfléchir et je me dis, est-ce que c'est bon ? Enfin, ce n'est pas dans le sens où ce n'est pas bon. Parfois, c'est vos essais, parfois vos tâtonnements aussi. Parfois, bon, bien sûr, chaque plat, lorsqu'il est servi, il est déjà, disons, perfectionné. Il est fini. Mais en même temps, derrière, on sent aussi tâtonnements pour en arriver à ce goût-là. Et on fait aussi ce chemin à l'inverse, nous qui goûtons. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui est... Là, dans ce cas-là, ce n'est pas du tout évocateur d'où quelque chose, mais qu'on fait le chemin qu'on n'a jamais fait. Et c'est ça, pour moi, qui est passionnant. Si c'est seulement pour manger des choses qui sont bonnes, j'ai pas besoin d'aller au restaurant.
Vous ne dites pas manger, d'ailleurs. Hein, vous dites goûter. Kosekiguchi.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manou Farine.
Pas de transmission de cuisine chez vous, Pierre Gagnère, en tout cas pas tout à fait, hein, même si vous avez été programmé pour être cuisinier. Mon père cuisinier ayant appris le métier de manière empirique, opiniâtre à la tâche, pétri du sens du devoir et d'un catholicisme empreint de douleur, ça c'est ce que vous dites. Transmission brutale et donc peu loquace côté paternel, cuisinier lui aussi. Sans transmission ou presque, en tout cas pour ce qui est de la cuisine côté maternel, quels sont du coup les fantômes avec lesquels, ou pour lesquels, ou contre lesquels vous cuisinez, Pierre Gagnère?
Bon, les fantômes, ils sont simples, mais ils sont pas faciles à verbaliser. C'est donner du sens à un métier qui me plaît pas vraiment. Donc, ce qu'a dit Ryuki, c'est très beau là. En fait, le plat que je sers, il est abouti, il n'est pas abouti. Il y a un bout de chemin qui doit être fait par le dîneur, qui demande un peu de silence, qui demande un peu d'empathie. Un peu de compassion envers le modeste cuisinier que je suis. Cette cuisine, elle est continuellement un questionnement. Ce questionnement étant juste un moyen de donner assez d'énergie pour le matin dire « Allez, je me lève, j'y retourne. » Et on va encore aujourd'hui essayer de produire quelque chose qui soit au-delà de la qualité. Quelque chose qui soit personnel. Alors, de pas gaspiller, alors que l'on est effectivement dans une forme de luxe, on est dans une forme de superflu. J'aime pas le luxe, de superflu, parce que la nourriture en elle-même, il n'y a pas besoin de tout ça pour vivre. Et effectivement, on ne mange pas, on goûte, on s'interroge, on réfléchit, on se repose, on prend des forces. Je suis étonné par le nombre de gens qui versent leurs larmes, quoi. Qui sont émus, mais pour des choses qui me dépassent complètement. Et ça, pour ça, ça vaut le coup de faire ce métier.
Cette question de la culpabilité, Pierre Gagnère, que vous avez un tout petit peu évoquée là, par rapport au luxe, justement, c'est quelque chose que vous avez réglé il y a longtemps, en même temps que vous avez commencé à prendre du plaisir à cuisiner?
Oui, je l'ai réglé là. Oui. C'est réglé parce que les faits ont prouvé... que je trichais pas. Moi, il y a 20 ans, j'ai tout perdu, j'ai fait faillite.
À Saint-Étienne.
Mais vraiment, j'ai tout perdu. Et donc, mon envie de bien faire m'a emporté. Aujourd'hui, je peux affirmer à 66 ans que je ne triche pas. La culpabilité, elle engendre de la peur, elle engendre de la panique. Donc ça, et il y a un moment, ce problème-là, il faut évidemment le régler.
C'est vous qui avez dit tout à l'heure que c'était un métier qui ne vous plaisait pas beaucoup. Et puis vous avez même rectifié, vous l'avez remis au présent.
Oui. Oui,
Pierre Gagnère.
Oui. Je ne sais pas si je l'aime. Je ne sais pas. Je ne peux pas trop développer, mais ce que je sais, c'est que quand j'y suis, j'y prends du plaisir. Mais il ne faut pas rêver. Ce n'est pas 15 heures de plaisir. Je ne vois pas de concert. Il y a plein de choses que je ne fais pas, et aujourd'hui je ne les ferai jamais. Ça y est, moi, j'ai fait trois quarts de ma vie, hein. Je suis très réaliste, hein. Donc je ne vais pas rattraper le temps perdu, hein. Avec l'énergie, avec la compétence que j'ai acquise, eh ben aujourd'hui je dois absolument continuer inlassablement dans cette voie-là pour, parce que j'ai encore des choses à dire.
Condamné à cuisiner, Pierre Gagnère,
condamné
comme vous dites. Ryoko Sekiguchi.
Oui, parce que ça, vous avez dit tout à l'heure, donc j'ai encore des choses à dire. Donc c'est super intéressant, parce que au lieu de encore des choses à faire, mais c'est encore des choses à dire. Et est-ce que vous pensez, bien sûr, donc les choses à dire, ça change selon la génération, selon l'âge que qu'on a et que selon l'avancement de travail. Est-ce que ce que vous avez à dire aujourd'hui, bien sûr, a changé au cours du temps, ou bien c'est toujours le même message?
C'est moins thérapeutique, je dirais. Voilà. C'était une façon de... Oui, à moi une expression pour me dire que je suis vivant. Aujourd'hui, c'est moins angoissant pour les autres. C'est peut-être plus structuré. Avant, on me rapportait une anecdote il y a quelques temps. Lorsque j'étais à Saint-Étienne, j'avais évidemment une carte, hein, avec une jolie carte avec un beau papier, les mots bien écrits. Les gens font la carte. J'allais les voir. Je lui dis, non, oublie la carte, je m'occupe de vous. Donc je leur proposais ça, ça et ça. Je repartais en cuisine, j'avais complètement oublié ce que je leur avais dit, et je faisais autre chose. Il y en a qui aujourd'hui, bien sûr, regrettent cette époque. C'était extraordinaire, parce que je leur donnais plus qu'il ne le fallait même. Chaque instant, chaque minute, chaque service, je construisais quelque chose, quoi. Donc, je construisais déjà le lendemain.
Bœuf, araignée de mer et caviar, royal d'araignée de mer, cœur de filet de bœuf de Salers, au caviar au cirque. Petite quenelle au caviar pressé, galette de blé noir au navet blanc, millefeuille croustillant au château Climas, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuil et miel d'arbousier, une déclinaison d'asperges vertes et blanches. Le chevreau, pièce de chevreau rôti, feu d'enfer, abats grillés, jeunes fenouilles et radis glacés en aigre doux. Caillettes aux olives noires de Luc, cannelée à la pimpronelle et fromage de chèvre frais, agrémenté d'une pâte de piment Nora. L'agneau, hallétons de l'Aveyron, sel poêlé à l'origan, carré frotté d'un caillé de brebis en tandoori. Et timbales de riz à l'oseille pourpre. Escargot petit gris sauvage, lié d'un pesto de cerfeuil, feuilles cigarettes de chou Shanghai, panisse, deux personnes.
Slow Food hein, par Aston Villa, qui est un extrait de l'album Strange, qui égrenait quelques-unes de vos cartes, Pierre Gagnaire, en plusieurs voix. Et c'est par là que tout commence, que l'idée commence, par l'écriture, pour vous, Pierre Gagnaire, c'est-à-dire par un papier, un crayon, oui. Une gomme. Alors je ne parle pas de la carte, hein, je parle de bien avant que les
oui,
plats
oui,
soient
oui,
réglés.
Oui, les choses sont. Ouais. C'est pas ce cahier là.
Vous avez un gros carnet devant vous.
Non, il y a le. Voilà, l'idée elle est là. Il y a un crayon, une gomme, et puis on construit. Après, c'est toujours tapé. Alors, bon, c'est pas le cas, mais maintenant, c'est tapé à l'ordinateur. Pas par moi. Je lis la carte à mon assistante, voilà, qui me le rend. On le relit, je reconstruis. Et quand les mots sont bien placés, la recette est faite. Voilà. Dans Aston Villa, la musique, ce qui était intéressant, c'était un peu comme votre lecture. C'est-à-dire qu'il y avait, 7-8 plats, lus, chantés, criés par différentes personnes.
Et on par Zazie, par Bachung.
Par Zazie, Bachung, Jacques Lanzmann, les Robins des Bois, Jean-Pierre Coff. Et la façon dont c'est lu, eh bien, c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a les mots qu'on se lit. Qu'on écoute soi-même dans le silence de son histoire, de sa propre histoire. Et lorsqu'après c'est livré à quelqu'un, la façon dont c'est dit, la façon dont c'est évoqué, eh bien ça devient autre chose. C'est ça qui est extraordinaire. Et la parole aussi, la voix, l'intonation a son importance sur la gourmandise, sur la passion, sur la tristesse, sur la mélancolie. Enfin voilà.
Qu'est-ce que vous commencez par écrire sur ce papier ? Pierre Gagnaire.
Il y a des produits qui m'intéressent, qui sont parfois des produits tout à fait anodins, et qui j'ai envie de les faire entrer dans la boîte, quoi. Voilà, par exemple, la truffe noire, qui était un moment extraordinaire. Donc, ça va être topinambo, rôti, voilà. Rôti, virgule, pointe d'ail, pointe d'asperge au parmesan, pointe d'asperge verte de Malmort, parce qu'elles ne viennent pas du Pérou, elles viennent de Malmort, dans Vaucluse. Mais c'est là que, d'ailleurs, puisque pour moi, souvent les menus sont traduits en anglais, et c'est là que la langue française, c'est incroyable. Vous voyez, par exemple, crème glacée amarelli, bon, virgule, une touche de café, bon, intraduisible en anglais, ça.
Oui, parce que c'est vrai que votre menu, par exemple, voilà. Qui est... Moi, je pense toujours que le menu, enfin, ça fait partie d'un texte, parce que c'est écrit.
Oui.
Et justement, avec tous les restaurants que vous avez, vous, enfin, je pense que vous ne prenez pas toujours le même menu, mais en même temps, il y a certains plats qui sont traduits en plusieurs langues, fait.
En japonais,
en coréen, en vietnamien.
Non, mais chaque chose qui est écrite, elle essaie aussi dans la mesure du possible, ça prend du temps, parce que c'est pas évident comme ça en quelques jours, mais de rentrer aussi dans la culture du pays. Alors, au Japon, évidemment, encore plus qu'ailleurs, tous les produits, toutes les herbes, enfin, il y a tellement de choses extraordinaires. La carte du Japon, elle est vraiment, il y a 95% de produits qui sont japonais, évidemment.
Ah oui.
Pierre Gagnère, un plat qui ne se laisse pas écrire, hein, c'est-à-dire qui n'est pas nommé ou qui n'est pas nommable, est-ce que c'est un plat qui ne peut pas fonctionner ou est-ce que je prends le problème à l'envers?
Oui.
Est-ce que ça veut dire qu'un plat doit d'abord être nommable, hein, pour vous, en tout cas?
Oui, parce que la construction des mots, elle correspond à la construction du plat.
Vous faites un geste celui de l'empilement, qui est un mot que vous aimez bien.
Le dernier, là, je viens de faire. Donc, c'est pas le plus compliqué, mais c'était pour le Gaïa. Voilà, pour ce soir. Bon, alors, il y a une huître de Maldon, donc qui vient d'Angleterre, il y a d'Irlande, il y a de la branotte de morue, et il y a des poireaux. Donc, évidemment, grosse huître spéciale numéro 2 Maldon, slash, c'est une chose très pratique, ce fameux slash qui n'existait pas avant, voilà, branade de morue, donc ça veut dire que ces deux éléments, ils sont totalement indissociables. Ces deux éléments, ils se frottent comme deux pierres, quoi, qui vont, voilà, avec lesquelles on va mettre le feu. Et, voilà. Et puis, sous, virgule, étuvée de poireaux. Et le mot truffe, il n'est même pas évoqué. Il est évoqué par Traumatus Partium, puisque le mot truffe, c'est le titre. Donc il y a quatre pas de truffe, donc évidemment, je m'interdis de remettre le mot truffe 4-5 fois. Il y a déjà, on sait ce que c'est, voilà, et puis après, topinambour, je parle de topinambour, les topinambour rôtis, voilà, avec la pointe d'ail, il y a quoi avec Ah oui, il y a des petits encornets, alors des encornets, virgule, voile de citron, voilà.
Cette rédaction-là, Pierre Gagnère, elle a valeur de recette finalement, hein, puisque vous n'en écrivez aucune. Le plat est dans la tête, le plat se transmet. C'est un peu comme si vous étiez, je ne sais pas comment dire ça, comme si vous voyiez le goût.
Ah mais je le vois, ah, mais complètement, je l'imagine complètement. Moi, je ne suis pas un grand cuisinier, hein, mais j'ai un truc, c'est... J'ai une espèce de mémoire des goûts qui permet de construire une histoire qui sera plus du navet, qui sera plus de l'aubergine, qui sera plus de viande, ça sera autre chose qui produit un peu de silence, je dirais. Voilà.
Alors, ce que vous dites, justement, ça me fait penser à donc Transgression, ce recueil d'entretiens que vous avez donné à Catherine Floïc, hein, aux éditions Argol. Et elle raconte, Catherine Floïc, « J'ai un jour enregistré une conversation téléphonique que vous avez eue devant moi. » Donc, elle vous cite, vous, au téléphone. « Vous pouvez mettre un petit peu de verveine ou de la mélisse, c'est moins fort, la mélisse, un peu de pêche, fraîche, et la bisque légèrement crémée. » Vous ajoutez aux pêches un peu de tomate crue, éventuellement une petite pincée de curry, et vous faites revenir au beurre quelques minutes. C'est bien la mélisse. Supprimez l'estragon et sur la carte mettez homard à la mélisse. Vous laissez infuser le bouillon et à la commande, vous l'émulsionnez avec une goutte d'huile d'olive et vous servez en tasse. Vous êtes au téléphone, vous parlez les yeux fermés et vous transmettez ce que vous êtes en train de voir, oui. c'est-à-dire oui, les, oui. des goûts d'ailleurs, plus qu'une oui. recette ou oui. une sorte de recette. Ne pas écrire de recette, ne pas goûter, parce que vous êtes connu pour ça aussi, vous goûtez peu, pas, je ne dirais pas que vous ne goûtez pas, mais vous goûtez peu. C'est aussi ne jamais laisser une recette en paix. Alors, il y a peut-être une recette que vous avez fini par écrire, j'en sais rien, mais c'est celle qui vous lie, Pierre Gagnaire, à une voix, et cette voix, c'est celle-ci.
J'aime beaucoup la blanquette de veau, j'aime beaucoup le pot-au-feu, j'aime beaucoup le mironton, j'aime beaucoup des tas de choses comme ça, mais je veux dire que les vertus sédentaires, comme je dis dans le livre, de ces plats ne doivent pas empêcher un peu de création, je veux dire. Et en fait, le livre est parti sur l'idée de rechercher un peu des choses qui pourraient devenir des éléments thématiques des repas à venir, c'est-à-dire qu'en fait... Moi, j'ai travaillé avec un certain nombre de cuisiniers et je me suis intéressé, par exemple, au fait que Marc Bonneau s'était rendu compte que les arêtes de sol donnaient la meilleure fumée de poisson et qu'il n'y avait pas de raison de ne pas essayer de les rendre comestibles. Et qu'en fait, il y est parfaitement arrivé. Donc, je trouve ça des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'on peut-être essayer d'élaborer quelque chose qui ressemblerait vaguement, mais très vaguement et très modestement à une espèce de patrimoine
C'est bien.
Parce qu'on fait en fait beaucoup le patrimoine du passé. Il y a des tas de livres là-dessus. Et en fait, on n'a jamais cette tendance à rechercher un peu ce qui pourrait être.
C'est bien, mais ça peut être dangereux quand même. Parce que moi, il y a des tas de choses que je connais pas. Les algues, les fleurs.
Les algues, c'est très intéressant parce que les algues sont très communément dans la cuisine japonaise et en France, elle provoque souvent des réactions de rejet, de répulsion. D'ailleurs, je raconte ça un peu dans les restaurants bretons.
Les ormeaux aiment ça, vous dites qu'ils se jettent sur les algues.
Absolument, absolument. Mais je pense que quand les algues sont traitées par des cuisiniers du type d'Olivier Rollinger à Cancale, c'est absolument parfait, c'est formidable, c'est grandiose.
L'ail des ours en liberté, c'est...
Ça, c'est Michel Brass. Mais c'est de l'ail sauvage, et c'est de l'ail qui est effectivement tout à fait comestible et tout à fait intéressant, et peut-être certainement plus digeste que l'ail cultivé dans les potagers communs.
Oui, et l'ache, c'est quoi ça?
L'ache, c'est l'ache ou la livèche, c'est aussi une herbe sauvage qui est l'ancêtre du céleri. Et ça, on voit beaucoup ça dans les... Mais ça m'a intéressé aussi parce que peu de cuisiniers utilisent encore la livèche ou l'ache, mais par exemple, dans un pays qui est très démuni, semble-t-il, dans ses traditions gastronomiques, qui a plus souffert de grandes famines que de hautes gastronomiques, et l'Irlande, pas mal de cuisiniers irlandais travaillent la livèche.
La voix de Jean-François Haber, à propos de son livre « Le génie des saveurs » en 1994, Jean-François Haber, chroniqueur lyonnais de cuisine aussi, et aussi de jazz, et poète à 16 heures aujourd'hui, et de cinéma, aujourd'hui disparu. Qu'est-ce que vous vouliez faire entendre par cette voix, Pierre Gagnaire?
Lui rendre hommage parce que Jean-François a été un personnage important dans ma vie professionnelle. C'est le premier qui a écrit sur ma cuisine. C'était en 78.
Dans Lyon Poche.
Oui, dans Lyon Poche. C'était un normalien. Donc c'était quelqu'un de très bon, très cultivé, voilà, et qui était fou de cuisine. Et il avait sympathisé. Il était très ami avec Alain Chapelle. Il a donc découvert cette cuisine étudiant. Notre univers l'a passionné. Et donc, il avait cette chronique dans Lyon Poche. Et lorsque il a fait cette chronique sur nous, il a donc décrit le repas qu'il avait fait quelques semaines avant. Et il a notamment parlé d'une pochette de Saint-Pierre au poivron doux. Et la façon dont il en a parlé...
Je peux même vous lire ce qu'il a dit.
Oui.
Un luxe de fragrance, des goûts déliés, subtils... sans prégnance excessive, qui exprimerait un art véritable. En regardant au plus profond de la pochette, on devinait l'avenir de Pierre Gagnaire, on lisait la tendresse de cuisinier dans ses poivrons.
C'est de 78, ça. Tout est dit, hein. Extraordinaire.
Oui.
Et quand... Moi, j'ai lu ça, j'ai dit, mais voilà, mais c'est ça. C'est ça que je veux raconter.
Qu'est-ce que vous vouliez raconter avec ce plat, Pierre Gagnaire?
Mais c'est pas le plat. On s'en fout du plat. C'est pas important, le plat. C'est bien plus, ça va bien au-delà du plat. D'ailleurs, je sais pas où les retrouver, mais j'aurais bien que vous fassiez une photocopie parce que moi, j'ai perdu l'article. Mais ça m'avait marqué. C'était un truc qui m'avait, parce que il avait mis des, d'où l'importance des mots. Il avait mis des mots bien avant Goemio, bien avant avant qu'on parle de moi de façon un peu plus importante, un peu plus nationale. Mais il avait expliqué ce qu'il avait ressenti. Et ça, j'avais besoin que quelqu'un, par des mots, mette ce que, de façon très instinctive, très empirique, très angoissante, je ressentais, quoi. Et ces mots m'ont donné beaucoup, beaucoup d'énergie. M'ont beaucoup rassuré. Mais pas me rassurer pour dire, allez, on bouge plus. Au contraire, pour... Attendez, c'est en 78, c'est vieux, hein. C'est très vieux.
Vous aviez 26 ans.
Ouais.
De vous, il a dit Pierre Gagnaire aussi, que vous aviez inversé les données de la cuisine traditionnelle. Comment est-ce que vous comprenez ça aujourd'hui?
Oui, ah oui, oui, complètement. Oui.
Ça voudrait dire quoi? C'est quoi donc ce geste, ce mouvement d'inversion? Comment vous le comprenez?
J'allais pas beaucoup au restaurant hein, quand j'étais plus jeune, mais quand j'étais dans les restaurants, je m'ennuyais. Je me disais, mais ils font pas d'efforts, quoi, ces types, quoi. Mais ils font pas d'efforts, quoi. Donc, lorsque j'ai un restaurant, je reconstruisais toujours le plat qu'on me servait. Et dans les bons restaurants. J'ai dit, oui, mais... Voilà. Donc, je me suis contenté de m'appuyer sur de l'existant et d'un petit peu le détourner, d'un petit peu, ce que dit Jean-François, d'un petit peu l'inverser. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Puis après, bon, il y a des choses qui ont grandi à mon insu, qui ont enrichi le discours. Mais en gros, c'est ça. Moi, je suis un cuisinier classique. Hein. Je suis très ami avec Hervé Tisse. Hein. Donc, il y a eu un peu malentendu. On m'a qualifié de cuisinier moléculaire. Il y a un type qui a fait que moléculaire de façon absolument géniale. C'est Ferran Adrià. Vous êtes d'accord avec moi? Ce type est génial. Voilà. Après, ce n'est que de la copie. Mais par contre, je ne m'interdis pas de l'utiliser. Mon amitié avec Hervé m'a permis d'avoir accès à un tas d'informations. Mais ma cuisine, moi, elle est... Alors que je n'ai pas de racines, je n'ai pas, comme vous, une culture de mon pays, par des lectures, par... Moi, je suis un autodidacte, je lis, mais je bricole avec les livres. J'ai une femme qui lit 5 livres par semaine, moi, que j'en lis un. Moi, j'en lis un tous les 2 mois, mais je lis, mais lentement, parce que mon travail me prend la tête, me fatigue, mais mon histoire, c'est presque c'est un roman policier, enfin, c'est tout mélangé. Donc, ma vie quotidienne est tellement riche que quand je suis, donc, quand la journée est terminée, je suis un peu sur le sable, quoi. Mais évidemment, comme on dit, je m'accroche, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, moi, la cuisine, elle part de notre culture française. À mon insu, d'ailleurs. Hein.
Le poivron dont on parlait, c'est doux. Vous avez écrit sur l'astringent, Yoko Sekiguchi, sur le fade aussi. Pierre Gagnaire, vous auriez pu écrire éventuellement sur l'amertume, qui est une sorte de... qui reste peut-être à écrire, hein, mais sur une sorte de fil rouge de votre palette à vous. Est-ce que vous savez d'où vous vient ce goût?
Vous pourriez dire d'où viennent vos goûts, vous?
Non, mais ce que je... Je sens et je ressens, c'est que vous avez dit une amertume, mais en fait non, c'est pas l'amertume, mais
c'est la mer.
En fait, c'est les amertumes. C'est jamais au singulier, parce que dans votre repas, il y a toujours plusieurs types d'amertume, et qui nous fait penser que l'amertume, en fait, il suffit pas de dire c'est amer. Je pense, en fait, on a presque envie de inventer un autre mot pour 4 ou 5 types d'amertume qui se trouvent qui se promènent dans vos plats, quoi.
Oui.
Donc c'est, qui a, chaque fois, cette amertume a une couleur différente, la texture différente, et qu'on n'ose presque plus de dire c'est amer. Ça fait réfléchir. Est-ce que c'est amer? Comment? N'est-ce pas?
C'est vrai pour la vertu, mais c'est vrai pour le froid, c'est vrai pour le sucre, c'est vrai pour tout.
Ça, c'est vrai.
C'est ce qui s'appelle couper les cheveux en 4.
C'est vrai pour le fan. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais se couper les cheveux en 4, chez vous, c'est tellement passionnant. Mais moi,
c'est vrai que le café est amer. L'endive n'est plus amer. La radicchio, la trévise, tout ça, c'est des produits amers. C'est vrai qu'il y a plein de choses. Mais c'est vrai que l'amertume, bien dosée, c'est magnifique. Mais je pense que l'amertume, c'est vraiment un goût d'adulte. C'est un goût qui vient avec l'âge, me semble-t-il. C'est un goût qui crée d'abord de la voyance, mais ne serait-ce que ça je l'ai appris d'Hervé Tisse, le fait, ne serait-ce que d'en parler, vous prononcez le mot vinaigre,
ouais.
Il se passe des choses, vous voyez.
Alors, je ne voudrais pas creuser dans cette direction, donc on va s'arrêter là pour l'amertume, mais j'avais lu dans un entretien que vous aviez donné sur cette question de la mer ou des amertumes, oui. Que vous-même aviez pu lire que le goût de la mer ou le goût de l'amertume pouvait venir de difficultés dans l'enfance, de difficultés
oui,
maternelles.
Absolument, tout à fait, absolument, oui. Je l'ai occulté volontairement, mais vous avez...
Je l'enlève.
Mais vous avez raison, effectivement. Et je l'ai dit parce que je l'ai lu. Il y a eu des études de fait, effectivement, par des psychanalystes, oui. Psychiatres, mm-hmm. Psychanalystes, effectivement. Mais c'est trop d'amertume. C'est pas l'amertume bien contrôlée.
Bien dosé,
mais le goût prononcé pour l'amertume, mm-hmm. Effectivement, mais... provient de quelque chose d'un peu rayé quoi, dans l'enfance.
Ah.
Oui, absolument. Oui.
Avant de vous laisser conclure l'émission entre vous, une autre voix que vous avez demandée, Pierre Gagnaire, dont vous dites qu'elle vous évoque raffinement extrême, désespoir terrifiant et beauté absolue, ça fait beaucoup pour un seul homme, sorte d'alter ego, peut-être. Mmh. Et c'est ceci.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are graphable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Mouth a little bit weak when you open it to speak. Are you smart? But don't change. Not if you really care for me.
Chet Baker en concert à Turin, oui. En 1959, oui. My Funny Valentine. Pierre Gagnaire, oui, je n'ai pas posé de questions encore que vous êtes... Je vous écoute.
Non, c'est un son, une voix incomparable. C'était paraît-il intimement insupportable, hein, malgré tout, faut quand même préciser. Il a fait beaucoup de mal autour de lui, mais c'est un immense musicien. Et sa voix, elle est ce que je vous avais évoqué tout à l'heure, c'est à la fois extrêmement sensuel, extrêmement troublant, c'est chaleureux, c'est émouvant. Enfin, c'est Zigane, c'est les sentiments de désespoir, quoi. Et à la fois tellement chaleureux, tellement oreillé, voilà.
Il y a peu, Pierre Gagnaire, vous disiez à propos du chemin de Chet Baker que vous sentiez votre cuisine évoluer de la même façon. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Vers où allez-vous?
Peut-être vers une forme d'épure, vers une forme de... J'espère pas finir comme lui, ça clairement. Est-ce qu'on sait où on va? J'en sais rien, en fait.
Merci à tous les deux, Ryoko Sekiguchi et Pierre Gagnère. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la prolonger entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Ah, c'était très impressionné ce que vous avez dit. Vous savez que vous ne savez pas ce que vous allez faire. C'est normal, parce que si on sait ce qu'on va faire, bah, on n'a plus besoin de le faire, n'est-ce pas, dans le futur.
Ce qui est passionnant, c'est que dans la vie, il se passe des événements, des rencontres, qui crée des espèces de chocs émotionnels qui disent « Ah ben ça vaut le coup de continuer ». Là, on a fait un petit repas, on a fêté nos 50 ans de cuisine il y a quelques jours. J'ai réuni des équipes. Et ben, j'ai fait venir des gens de Londres, de Bordeaux, de Courchevel, mais sur ceux de Paris. Et mes trois piliers de Tokyo sont arrivés. Ils ne m'avaient pas dit. Ils ont débarqué, ils venaient de Tokyo, ils sont repartis hier.
Ah,
ils sont restés 24 heures. Ben, c'est extraordinaire. Voilà. Moi, c'est ma.
Le contraire, c'est justement le contraire de l'ennui dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que la cuisine qui nous ennuie, ça on connaît tous. Ça c'est pas parce que ça peut être bon, mais quand c'est prévisible, dès le début du repas, on n'a pas besoin de continuer parce qu'on sait ce qui va arriver. Ouais.
C'est comme vous dans votre activité. Quelle est votre activité principale? Tout est à peu près équilibré entre la traduction, entre les poèmes, entre l'écriture.
Mais justement, je m'ennuie assez vite. Donc donc je peux pas continuer seulement de la poésie, de la traduction, et que en fait je me nourris de tout. Oui. Ce qui me nourrit dans la traduction n'est pas le même que ce qui me nourrit dans la poésie. Oui. Et que je pense que c'est aussi comme ça que vous travaillez aussi.
Vos enfants, ça fait quoi une année, Ryuki?
Depuis bientôt 20 ans.
Voilà.
Encore 30 ans de chemin à faire.
Et votre avenir, vous le voyez plutôt en France, plutôt au Japon, plutôt entre les deux pays? Quelle est la part qui prend le dessus?
Justement, je ne sais pas. C'est ça qui est bien. Parce qu'on sait, pas. Peut-être que je ne resterai ni en France, ni au Japon. Peut-être que je partirai ailleurs. N'est-ce pas? C'est ça qui est bien. Oui. Parce qu'on sait pas, on connaît pas l'événement qui va nous arriver.
Vous êtes totalement libre par rapport à ça.
Oui.
Moi, c'est le contraire. Moi, je suis très attaché, bien sûr, par l'entreprise,
Mais en même temps, vous n'arrêtez pas de bouger. Donc, au niveau des placements.
Mais j'ai besoin d'une base. J'ai besoin de sentir que j'ai un endroit dans lequel je peux vraiment me poser, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est très important. C'est Paris, hein. Bien sûr, un endroit familial.
Et la cuisine.
Et puis, le restaurant rue Balzac. Hein. Ouais. Pour moi, cet endroit est très important.
Enfin, mais quand j'y vais, parfois vous êtes là, parfois vous n'êtes pas là. Mais c'est pas ça qui est. Ouais. Enfin, parce que vous avez laissé votre âme. Ouais. Et quand je dis ça, c'est pas juste une expression, mais on le sent vraiment.
Poésie et ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Alain Joubert pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Ryoko Sekiguchi et Pierre Gagnère. Vous trouverez toutes leurs actualités sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr.